Vous écoutez, on lit pour vous.
Le jeu risqué est bénéfique pour les enfants. Un texte de Clara Villeneuve paru le 3 septembre 2025 dans le magazine Québec Science. Depuis 2024, la Société canadienne de pédiatrie reconnaît le jeu risqué comme un moyen de prévention de divers troubles chez les jeunes, dont l'anxiété et l'obésité. Mais quelles sont les preuves scientifiques soutenant ces recommandations? Ces dernières années, de nouvelles restrictions dans les écoles primaires ont mis à mal plusieurs classiques de l'enfance. Désormais, interdit de grimper, de jouer au roi de la montagne, de faire des batailles de boules de neige et de sauter dans les flaques d'eau, révélait un dossier de la presse à l'automne 2024. Des restrictions qui visent à limiter le jeu risqué, cette forme de jeu excitante pour les enfants et dont le déroulement n'est pas planifié, mais qui comporte des risques de blessures. Ces interdictions servent principalement à réduire le risque juridique, les écoles ayant une responsabilité civile envers les élèves si un enfant se blesse dans la cour par simple accident ou à cause de la mauvaise utilisation d'un équipement. Le parent pourrait intenter une poursuite judiciaire contre l'école afin d'obtenir une indemnisation. Plusieurs écoles préfèrent donc prendre le moins de risques possible. Pourtant, interdire le jeu risqué va complètement à l'encontre des recommandations scientifiques dont celle est mise par la Société canadienne de pédiatrie en janvier 2024, qui propose d'ailleurs l'emploi de qualificatifs plus positifs comme « jeu extérieur »,« en pleine nature », actif, aventureux, libre ou encore non structuré. Car empêcher ces formes d'amusement a des conséquences dévastatrices sur le développement des enfants. Et on commence à peine à en mesurer l'ampleur. Déficit de risque. D'où vient cet engouement pour la prudence? Dans les années 1990, une nouvelle norme parentale a émergé, encourageant fortement les parents à assurer la sécurité de leurs enfants à tout prix. Il fallait leur éviter toute activité présentant un risque de blessure. Mais en incitant les parents à tout rendre prévisible et archi-sécuritaire, ce nouveau modèle a plutôt empêché les enfants d'apprendre à tolérer l'incertitude. Citation : Nous avons élevé une génération qui est tellement habituée à se faire dire quoi faire par des adultes qu'elle ne sait pas comment gérer un risque par elle-même. Fin de citation, déplore Mariana Brussoni, directrice de l'Institut de recherche HELP, Human Early Learning Partnership, à l'Université de la Colombie-Britannique. Une situation préoccupante qui s'évalue sa propre appellation, gracieuseté du chercheur australien David Eager. Le trouble du déficit du risque. À mesure que se développait cette aversion pour le jeu risqué chez les enfants et que diminuait leur temps de jeu libre, on notait une hausse fulgurante des cas de troubles psychopathologiques, dépression, anxiété généralisée. En 2022, ces troubles touchaient près d'une personne sur cinq au Canada. Cela a mené plusieurs spécialistes en Amérique du Nord comme en Europe à soulever une question troublante. Y aurait-il un lien entre la diminution du jeu risqué et l'augmentation des troubles de santé mentale? En 2022, une équipe britannique a testé empiriquement cette hypothèse en analysant les données de deux sondages indépendants menés auprès de plus de 2300 parents répondant pour leurs enfants. Elle a alors mis en évidence une corrélation inverse entre le jeu risqué et les troubles de santé mentale. Selon plusieurs spécialistes, la diminution du temps loué au jeu risqué serait même une cause de déclin de la santé mentale. En 2023, dans The Journal of Pediatrics, le psychologue américain Peter Gray affirmait carrément qu'elle en serait la cause principale. Mariana Brussoni explique, citation, « Un des signes d'anxiété chez les enfants, c'est le fait de percevoir des émotions fortes comme un danger ou une menace. Ils cherchent à les éviter. Mais à travers le jeu risqué, on peut s'exposer à ces sensations de façon progressive. On comprend alors tout ce que ces émotions ont à offrir et à quel point elles peuvent être formidables. Fin de citation. Risque ou danger? Il faut ici rappeler que le jeu aventureux n'est pas dangereux en lui-même. Le risque et le danger sont en effet des notions différentes. Le danger est la caractéristique d'une situation ou d'une activité qui a le potentiel de nuire à la santé. Le risque, c'est plutôt la probabilité que ce danger se concrétise et cause des blessures. Grimper une falaise, c'est dangereux. Mais avec l'équipement et l'entraînement approprié, on peut l'escalader de façon sécuritaire. Autrement dit, avec un risque minimal. Selon Émilie Beaulieu, chercheuse associée au Centre hospitalier universitaire de Québec et co-signataire des recommandations de la Société canadienne de pédiatrie, la responsabilité de déceler les sources de danger revient à l'adulte responsable. Citation: l'enfant pourra ensuite décider par lui-même du degré de risque qu'il veut inclure dans son jeu, selon sa personnalité, son développement et son niveau de confort, dit-elle, fin de citation. Ironiquement, les adultes discernent parfois mal certains dangers. Par exemple, citation, peu de gens savent que les blessures les plus sévères dans les modules de jeu sont celles causées par la strangulation, lorsqu'un enfant a un vêtement ou un casque qui reste coincé dans la structure, prévient la pédiatre. En fait, la majorité des blessures qui surviennent en contexte de jeu sont des blessures mineures, pas des blessures sévères. Fin de citation. Les recommandations de la Société canadienne de pédiatrie n'incitent pas les adultes à forcer les enfants à s'engager dans des jeux risqués, mais plutôt à créer les conditions propices à leur engagement. Les enfants auraient effectivement une propension innée pour le jeu risqué. Citation: si vous laissez réellement les enfants jouer dehors et que vous leur donnez le temps, l'espace et la liberté de jouer comme ils le souhaitent, ils s'engageront inévitablement dans ces formes de jeu, soutient Mariana Brussoni. Fin de citation. Vous écoutez Le jeu risqué est bénéfique pour les enfants. Un texte de Clara Villeneuve paru le 3 septembre 2025 dans le magazine Québec Science. Vestiges évolutifs. Ce goût pour le risque serait un héritage de nos lointains ancêtres. Évoluant dans nos environnements modernes, high-tech et artificiels, nous oublions facilement qu'Homo sapiens est avant tout un primate. Un grand singe qui a acquis de puissantes capacités cognitives en quelques millions d'années, mais qui a radicalement transformé son milieu de vie dans les derniers millénaires. Ainsi, nous avons une peur innée du noir, des hauteurs et de l'eau. Historiquement, ces peurs étaient adaptives, c'est-à-dire qu'elles nous incitaient à éviter ces sources évidentes de danger. Mais aujourd'hui, nous mourons plus de maladies cardiaques que de noyades ou de chutes graves. Pourtant, nous ne créons visiblement pas de façon innée le sucre et la sédentarité. Il y a un décalage entre ce qui nous fait peur et ce qui devrait nous faire peur. N'empêche, notre passé évolutif reste bien gravé en nous. S'installe ainsi naturellement durant notre développement une anxiété non fonctionnelle, face à la nuit, à un ravin ou à un plan d'eau. Selon le psychologue Leif Edward Ottensen-Genner et la professeure en éducation Ellen Bate Hansen-Sensetter, c'est là que le jeu risqué devient important. Dans un influent article publié il y a une quinzaine d'années dans Evolutionary Psychology, ces scientifiques norvégiens ont avancé que le jeu risqué serait, citation, « un mécanisme évolutif visant à éliminer l'anxiété non fonctionnelle résiduelle à mesure que l'enfant grandit et acquiert la capacité de maîtriser des situations qui dépassaient auparavant ses capacités ». Fin de citation. Autrement dit, une pulsion pour le jeu risqué aurait émergé chez l'enfant pour qu'il apprenne à surmonter ses peurs innées en grandissant. la sécurité nécessaire. Alors, au 21e siècle, comment promouvoir à la fois le jeu risqué et la prévention des blessures? En 2013, 10 scientifiques, dont Mariana Brussoni, ont organisé un symposium consacré à la question. L'idée était de réunir des spécialistes de différents domaines, développement de l'enfant, prévention des blessures, sécurité, droit, architecture, du paysage, pour bâtir une vision globale. Au terme de cette rencontre, le groupe a conclu que, citation, « le statu quo en matière de prévention des blessures, qui privilégie la sécurité avant tout, n'est ni raisonnable ni acceptable. » Fin de citation pour le développement des enfants. Une conclusion sans équivoque à laquelle les scientifiques sont arrivés à une époque où les restrictions encadrant le jeu risqué étaient beaucoup moins strictes qu'aujourd'hui, faut-il le rappeler. Selon le groupe, un nouveau paradigme s'imposait. Les aires de jeu devraient être aussi sécuritaires que nécessaires et non aussi sécuritaires que possible. Dans l'article publié à la suite du symposium dans Injury Prevention, on révélait que l'approche canadienne envers la structuration des aires de jeu visait à limiter les risques de poursuites judiciaires en misant sur la sécurité avant tout, mais avait complètement délaissé les besoins de l'enfant. Citation, « Par le biais de diverses normes de sécurité, conception d'aires de jeu, règles et pratiques de supervision, nous avons restreint l'accès des enfants à des jeux risqués à un point tel que nous risquons de nuire à leur développement. Peut-on y lire ? » Fin de citation. Il aura toutefois fallu attendre une décennie au cours de laquelle les preuves des bénéfices du jeu risqué se sont accumulées avant que la Société canadienne de pédiatrie soit convaincue et formule ses recommandations. Pendant ce temps, la promotion du jeu risqué battait son plein à l'autre bout du pays, notamment grâce à la mise en place de l'Outside Play Lab de Mariana Brussoni à l'Université British Columbia. Ce laboratoire de recherche axé sur le jeu risqué et la prévention des blessures a permis d'élaborer des boîtes à outils pour aider les parents ainsi que le personnel éducateur et enseignant à accompagner les enfants engagés dans ce type de jeu. Selon Émilie Beaulieu, les recommandations de la Société canadienne de pédiatrie de 2024 ont généralement été bien reçues tant par les spécialistes de la santé que par les parents. Mais il est encore tôt pour en constater les retombées par des actions concrètes. De fait, les normes de sécurité dans les aires de jeu ne seraient toujours pas centrées sur les besoins de l'enfant. Pour les barres de singes, par exemple, citation, « il existe des normes concernant la hauteur des barres, la distance entre les barreaux et leur diamètre. Mais rien de tout cela n'est basé sur des données anatomiques. » Fin de citation, déplore Nathaniel Domini, professeur d'anthropologie à l'Université Dartmouth au New Hampshire. Ainsi, personne n'a mesuré la taille des mains et la longueur des bras des enfants, ni évalué la façon dont ils interagissent avec cet équipement pour établir des normes appropriées à leur utilisation. Dans un article de 2024 paru dans Evolution, Medicine and Public Health sur les 100 ans des barres de singes, Domini et ses collègues proposaient de remettre en avant la perspective évolutionniste dans le débat sur le jeu risqué. Citation, « En anthropologie physique, nous avons développé des outils performants pour quantifier le mouvement et le comportement de jeu des primates. Il pourrait aussi servir à étudier le jeu risqué chez l'humain, soutient-il. » Fin de citation. Un vrai faux risque. Les études tant théoriques qu'expérimentales sur les bienfaits associés au jeu risqué sont nombreuses. Dans le cadre des premières, on reconnaît l'importance du jeu libre dans le développement animal et donc humain. C'est le cas de l'étude des scientifiques norvégiens Sandsæter et Kenner, citée plus haut. Pour les recherches expérimentales, les scientifiques comparent différents critères comme la sédentarité ou l'anxiété chez des enfants participant plus ou moins souvent à des jeux risqués. Le genre de questions auxquelles on peut répondre avec cette approche est toutefois limité. Par exemple, comment faire pour déterminer à quel point les enfants qui ont appris à gérer le risque par le jeu appliquent cette compétence à d'autres situations du quotidien? Citation, on ne peut évidemment pas demander à des enfants de se lancer dans le trafic et se dire « s'ils sont percutés par une voiture, tant pis ». Nous le faisons donc virtuellement, explique Mariana Brussoni, fin de citation. Dans un projet en cours mené conjointement avec Ellen Bate et Sun Sunsetter, elle met des enfants de 8 à 10 ans au défi de traverser une rivière ou une route ou encore de se diriger d'un point A au point B sur une structure d'équilibre. Tout cela dans un univers factice accessible par un casque de réalité virtuelle. Pour évaluer comment les jeunes gèrent le risque, les scientifiques mesurent des paramètres comme le temps passé à observer l'environnement avant de s'engager, la difficulté du chemin emprunté ou encore la vitesse d'exécution. Cette méthode novatrice, déjà utilisée dans d'autres domaines de recherche tels que l'ingénierie et la médecine, ouvre de nouveaux horizons pour la recherche sur le jeu risqué. Il ne reste qu'à espérer que l'accumulation de preuves scientifiques replacera les besoins de l'enfant au centre de la discussion une fois pour toutes. C'était « Le jeu risqué est bénéfique pour les enfants », un texte de Clara Villeneuve paru le 3 septembre 2025 dans le magazine Québec Science.
The sex I've ever had. Tout ce que grand-mère a fait au lit. Un texte de Catherine Lalonde paru le 27 août 2025 dans Le Devoir. Vous avez 65 ans et plus? Et vous avez envie de parler de sexe? Appelez-nous! Cette affichette, le théâtre Prospero l'a posée dans des bingos, des maisons de retraite, des bars et des CLSC pour trouver les 6 aînés montréalais prêts à raconter sur scène toute leur vie sexuelle. Les vrais souvenirs sexus de Carole, Hélène, Gérard, Isabelle, Walid et Yvon, qu'ils soient soft ou hard, orgasmiques ou mi-amères, forgent le texte de l'édition montréalaise « All the sex I've ever had ». Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la vie sexuelle de vos grands-parents, sans jamais oser le demander. Montréal est la ville où on a le plus d'aînés qui ont répondu à notre appel. Lance en souriant Ryan Lewis, producteur du spectacle créé en 2010 par la compagnie torontoise Mammalian Diving Reflex. Son boulot? Aller se poser un mois à Chicago, Tokyo, Sydney, Zurich, Séoul ou Gwangmyeong. Dans chaque ville, la pièce a été reprise une trentaine de fois depuis sa première. Il recrée et remet en scène une édition locale. Avec des vieux du cru, jamais des acteurs, et qui, chaque fois, effeuillent leur mémoire sexuelle. Parle-t-on de sexe de la même manière partout autour du globe? Ce qui est fascinant, répond M. Lewis, c'est que les expériences individuelles sont vraiment similaires. Ces histoires personnelles profondes, comme la première fois qu'on réalise et qu'on vit ce qu'est la masturbation, le premier amour, les grosses ruptures, vieillir. Ces expériences-là sont universelles, peu importe la culture. Mais la manière de les exprimer, elle, est complètement différente selon où on se trouve dans le monde, affirme-t-il. Dans la version sud-coréenne, par exemple, la distribution était entièrement hétérosexuelle. Car au moment où on l'a monté, l'homosexualité était un tabou culturel trop fort, se rappelle Ryan Lewis. Aucune personne queer ne voulait prendre la parole publiquement. Là-bas, le titre du spectacle a été changé. Impossible d'avoir sexe sur l'affiche. Il y a eu deux traductions. Chronique de la chambre à coucher et chronique d'une libellule, qui porte un double sens, à ce que je comprends. Dans cette version, encore, tous les participants s'étaient mariés à 30 ans. Tous les hommes avaient trompé leurs femmes. Toutes les femmes avaient été trompées. Et ce mot « tromper » n'est peut-être pas le bon, puisque tous les hommes le faisaient. C'est une norme sociale. Alors, c'est aussi cette histoire, celle de la norme, qu'on a racontée par le spectacle. Montréal, ville olé-olé? Et à Montréal? Un grand sourire illumine le visage de M. Lewis. C'est la ville où on a eu le plus de candidats, le plus d'appels de gens qui voulaient nous parler de sexe. 76 personnes se sont proposées. Un record! 37 d'entre elles ont été appelées pour une pré-entrevue. Enfin, les 6 aînés choisis, 2 femmes, CIS, une femme trans-lesbienne, un homme hétéro, un homme bi et un homme gay se sont livrés lors d'une entrevue individuelle de 4 heures. Y allant une année après l'autre, en commençant par les souvenirs les plus lointains et les premiers émois, ils se sont remémorés. Autocaresses, baisers, sous-vêtements, fellation, pénétration, bon coup, mauvaise baise, orgasme, banquette de voiture, vibrateur, hormones dans le plafond ou qui lâche, accouchement, Viagra. Le temps qui passe, longtemps, en temps débat. J'ai 38 ans et je suis enceinte, y a raconté par exemple Hélène, 72 ans. Le bébé est sur mon nerf sciatique. Avec mes hormones, faudrait que je fasse l'amour tous les jours. Ça me prend des oreillers. Si je m'assois, c'est moins pire. J'accouche de Thibault à 32 semaines. Il pèse 4 livres. Le spectacle ne parle pas de sexe au troisième âge. Il observe une certaine tranche démographique. Précise Darren O'Donnell, metteur en scène originel et fondateur de Mammalian Diving Reflex. On s'attarde à la génération qui est née avant qu'on commence à parler de sexe, qui y a survécu et qui a trouvé sa manière de se rendre aux années 1960, où tout le monde a appris en même temps comment parler de sexe. Jusqu'à aujourd'hui, où on en parle probablement trop, avec les identités de genre et le queer et toutes nos obsessions. Selon moi, c'est même rendu plutôt bruyant maintenant. Le projet porte sur la sexualité que ces personnes âgées ont vécue enfant dans les années 1960, toute leur vie durant. C'est large. Tout ce qu'il nous reste encore à baiser. De tous ces souvenirs naît un texte monstre, une première version extrêmement longue qui donnerait un show d'au moins 3 heures, explique Ryan Lewis. Puis l'édition. Coupure au ciseau, à la machette, choix cruel. L'équipe retire ce qui se ressemble, trouve le rythme, surligne les particularités, travaille la courbe dramatique, ajoute sons et lumières. quand on est enfant, c'est un peu rapide. Il y a peu de souvenirs. Et il y a toujours une très grande densité d'histoires dans la vingtaine et la trentaine. Tellement de choses sont vécues ces années-là. Nous, on cherche un équilibre et on rattrape le rythme dramaturgique. On l'aura compris, « All the sex I've ever had » défonce le tabou de la sexualité des vieux, des orgasmes qu'ont eu nos parents, nos grands-parents. L'auteur, Pascal Quignard, a magnifiquement écrit et pensé cette scène primitive qui nous fait détourner les yeux. Celle de notre conception. Surtout des gestes, caresses et fluides que se sont échangés alors nos parents. Regardez cette scène, pour Quignard, c'est devenir l'enfant qui tient la chandelle, celui qui résulte de la scène qu'il examine, au rebours du temps, la scène choquante ou effarante qu'il imagine à sa source. Plutôt que de détourner la pensée, pourrait-on imaginer, souhaiter même, que nos parents, nos grands-parents, aient eu des orgasmes dévorants? Même en des sexes plissés? Peut-on les entendre en parler? On a vu plusieurs fois, au fil des productions, des enfants et des petits-enfants qui sont venus écouter leurs parents ou grands-parents sur scène. C'est vraiment libérateur, affirme Ryan Lewis. Pour moi aussi, c'est libérateur, travailler sur ce show. J'y pense chronologiquement. Le spectacle dure entre 90 et 120 minutes. À mon âge, j'ai vécu quoi? Les 35 ou 40 premières minutes du spectacle? Il y a encore tellement de choses, de rencontres qui vont m'arriver, si je suis chanceux. Ce spectacle fait que je n'ai plus peur de vieillir, du tout. Au contraire, maintenant, je suis excitée à l'idée de vieillir. Littéralement, c'était « All the sex I've ever had », tout ce que grand-mère a fait au lit. Un texte de Catherine Lalonde, paru le 27 août 2025 dans Le Devoir.